Ce matin, nous allons méditer autour d'un thème « Disciples du Christ aujourd'hui, une mise en garde sévère contre la cupidité. » Disciples du Christ aujourd'hui, une mise en garde sévère contre la cupidité. Je voudrais introduire en disant que, bibliquement parlant, les disciples dignes de ce nom, c'est celui qui enracine sa vie de foi comme une graine dans une bonne terre. C'est-à-dire que c'est cette personne-là, c'est un homme ou une femme, qui a appris à s'enraciner pour produire, à prendre racine dans sa relation avec le Seigneur pour vivre une vie significative et productive. C'est en faisant cela seulement qu'il sera en mesure de vivre une vie stable, une vie équilibrée et peut-être même une existence radicale. Il est vrai que presque nous tous, nous n'aimons pas vivre une vie chrétienne radicale. L'environnement dans lequel nous vivons, au fur et à mesure, est en train de nous habituer à une culture qu'on appelle l'effort. On les constate dans la manière dont les élèves se comportent aujourd'hui. On les constate dans la manière dont les étudiants à l'université se comportent aujourd'hui. Ils sont peu nombreux, ceux qui travaillent dur, ceux qui se reconnaissent étudiants et qui sont venus apprendre et qui, en plus de ce qu'ils reçoivent dans les salles de cours, peuvent aller dans les bibliothèques, être intéressés à savoir ce que les autres disent. Ils réussissent à la limite. Avec le système d'aujourd'hui, où il y a même la péréquation, les gens réussissent sans qu'ils aient le droit de réussir. Nous sommes tombés trop bas. Et l'éducation est tombée trop bas. Cette culture dont je viens de parler nous a suffisamment formatés, parce qu'on la retrouve aussi dans nos maisons. On la retrouve aussi même dans le monde des affaires. Et nous a tellement formaté que dans le monde spirituel, il est difficile aujourd'hui que les gens soient prêts à payer le prix. La fois passée, un frère m'a approché et m'a dit, le message a parlé du disciple qui doit vivre une existence radicale, mais le message lui-même était aussi radical. C'est ça l'évangile, malheureusement. Pour nous, les paroles que nous lisons ne viennent pas de moi, ne viennent de personne d'entre nous, mais c'est Christ lui-même qui parle. Et il s'adresse à qui? Il s'adresse à ses disciples. Il dit ceci, il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les mythes et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni les vers ne font pas de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et il ajoute, car là où est un trésor, sera quoi? Sera ton cœur. C'est radical. Il y a deux types de personnes. Les uns qui amassent sur la terre et d'autres qui amassent pour le ciel. Une vie chrétienne qui ne nous coûte pas quelque chose de plus, c'est ce que Jésus veut dire. N'en est pas une. Je voudrais dire qu'en tant que disciple, ou si tu veux être disciple, si tu veux demeurer disciple, tu dois être prêt à payer le prix. Sinon, tu vas rester à la rive, tu ne vas pas aller trop loin. Le premier point, après cette introduction, c'est ce verset 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus, en disant cela, montre que c'est dans le cœur que tout se joue. Toute notre vie se joue dans le cœur. Vous êtes un jeune homme ou une jeune femme, tout votre avenir se joue dans votre cœur. Vous êtes marié, vous avez des enfants, l'avenir de vos enfants, l'avenir de votre famille se joue, vous les deux parents, dans votre cœur. Le cœur joue un rôle primordial dans les choix divers que nous prenons. Dans des décisions très importantes que nous prenons, qui peuvent mettre en péril nos vies ou qui peuvent épargner nos vies. Proverbes chapitre 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia. Il n'a pas dit de lui viennent les sources de la mort, de la vie, parce qu'il invite chacun de nous à prendre garde de la manière dont son cœur est géré. Le cœur, c'est l'être intérieur de la personne qui a le pouvoir d'orienter toute notre vie. C'est-à-dire que pour que nous vivions une vie significative ou une vie qui n'est pas significative, bien aimé, tout dépendra de ce à quoi nos cœurs sont attachés. Ce que j'aime ou ce à quoi mon cœur est attaché marque terriblement et oriente sensiblement toute ma vie. C'est ainsi que si votre cœur est attaché au sexe, vous allez vivre dans l'immoralité sexuelle, tout en étant à l'église, tout en chantant dans la chorale, tout en dirigeant un groupe de gens. Parce que vous n'êtes pas, votre cœur n'est pas suffisamment préparé pour gérer vos appétits sexuels. Si votre cœur est dominé par l'amour de l'argent, les conséquences seront incalculables. Si votre cœur est dominé par la soif du pouvoir, vous utiliserez les gens comme des escaliers pour monter toujours plus haut. Et vous chercherez à rester au pouvoir jusqu'à la mort, même quand ce n'est plus possible. Même quand votre mandat est fini, vous allez vouloir gérer tout en disant que le mandat est fini. Nous le vivons. Bien-aimés, le cœur a été fait, je le dis souvent, a été fait pour Dieu. Si autre chose que ça, même votre mari occupe la place que Dieu devait occuper, votre mari n'a pas de ciel où vous amener. Votre épouse n'a pas de ciel où vous amener. Vos enfants, pour lesquels, pour survivre, vous faites des choses abominables, ne pourront pas vous acquérir le ciel. Alors Jésus fait, et c'est le deuxième point de notre message, une mise en garde sévère. Et c'est ce que je venais de lire dans le verset 19 et le verset 20. Jésus met ici en évidence deux attitudes fondamentales qui marquent l'existence humaine et divisent les êtres humains en deux groupes de personnes. C'est vrai que dans nos églises, on a l'habitude de lire ces passages lorsqu'il y a offrande. Je l'ai dit mercredi passé lorsque nous étions en étude biblique. L'officier du culte lit les versets 19 jusqu'au verset 20. Il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites, les vers ne font pas ravage. Il fait comme pour dire, envoyez votre argent dans quelle banque? Dans la banque du ciel. Je ne sais pas si elle existe. C'est là que ce sera sécurisé. Mais ce n'est pas ce que le texte veut nous dire. Le texte a un autre message, et c'est celui que nous sommes appelés à découvrir. Les deux personnes, les deux groupes de personnes, ou les deux attitudes fondamentales, c'est celle-ci. Il y a un groupe de personnes qui amassent les trésors sur la terre. Quand vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 18, on parle de l'aumône, on parle de la prière, on parle aussi du jeûne. Dans tous ces morceaux littéraires, dans ces passages, Jésus insiste sur le fait que lorsqu'on va donner l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que la main droite a donné. C'est ça? Lorsque vous mettez en prière, il ne faut pas le faire comme des hypocrites qui aiment à prier au rond-point Seigneur pour que les gens le voient. Il faut le faire dans le secret pour que Dieu le voit dans le secret. Et à partir du verset 16, on parle du jeûne. Quand vous jeûnez, il ne faut pas avoir une mine de deuil pour que les gens voient que tu es en train de jeûner. Mais quand tu jeûnes, fais-le aussi en secret. Alors, amasser les trésors dans les cieux, si on doit se situer sur la terre, si on doit se situer dans ce contexte, c'est faire attention aux appréciations des humains. Vous risquez, quand on recherche plus la gloire des hommes, on fait des choses pour être vu. On a déjà reçu sa récompense, où c'est? Sur la terre. On n'a plus de récompense à attendre de la part de Dieu. Ça, c'est la première chose. Mais ça peut aussi être une obsession des choses matérielles. Une obsession maladive, maladroite. On pourrait dire, en tout cas, un penchant pathologique vers les choses matérielles. On accumule, on veut toujours accumuler jusqu'à avoir des choses dont on n'a pas besoin. Mais il y a aussi le fait d'épargner à l'excès. Je vais en parler plus tard. Alors l'autre attitude, c'est celui qui est fondé sur ce qui amasse des trésors dans le ciel. C'est-à-dire cela qui se place dans une relation juste, une relation de confiance, une relation d'obéissance, tous azimuts, sur tous les plans devant le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus, après avoir parlé de ces deux éléments, il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus veut dire, si vous voulez être mon disciple, il ne faut pas thésauriser, il ne faut pas amasser, il ne faut pas accumuler à l'excès, à la fois sur la terre, mais aussi dans le ciel. C'est pas possible de faire les deux à la fois. Parce que si vous engagez votre espérance, là où vous engagez votre espérance détermine toute votre vie. Si vous avez placé votre foi dans les richesses, dans les choses matérielles de ce monde, vous avez décidé de donner à ces choses toute l'orientation de votre vie. Et même votre avenir a été sacrifié. Ce message est tellement radical qu'il a engendré deux formes de comportement. Il y a d'abord la position extrême, ou le renoncement radical aux choses de ce monde, qui a amené certains moines à faire ce qu'on appelle, et même les sœurs religieuses, au vœu de la pauvreté. Ça, c'est le côté extrême. Au point qu'on ne peut plus manger, on ne peut plus s'habiller, peut-être, mais on dit, je vais être pauvre, je vais faire un vœu de la pauvreté jusqu'à la mort. Une autre position, c'est la dernière, c'est avoir la richesse, posséder les biens de ce monde, mais on se dit que je ne vais pas jouir seul de ces biens, mais je vais me comporter comme un diacre pour le Seigneur. Alléluia. Je vais me comporter comme un diacre, un gérant que le Seigneur a établi sur la terre pour que mes biens servent à l'épanouissement, à l'extension du royaume de Dieu. J'ai lu l'histoire d'un homme qui avait l'habitude de donner sa dîme. Il était très riche. Il avait l'habitude de donner la dîme. Mais à un moment donné de sa vie, après plusieurs années, il a dit, ce n'est pas suffisant. Alors qu'il y en a qui ne sont même pas en mesure de commencer à donner la dîme. Il a dit, ce n'est pas suffisant. Il a demandé à Dieu de lui révéler qu'est-ce qu'il peut faire avec ses biens. Dieu lui a demandé de quitter son pays où il vivait à l'aise, pour devenir missionnaire et utiliser son argent en terre de mission. Alors, que faire alors? Si donc il n'est pas aisé d'amasser sur la terre, mais plutôt amasser dans le ciel, que faire? La réponse à cette question se retrouve au verset 22 et le verset 23. Où il est dit que la lampe du corps, c'est quoi? C'est l'œil. Si donc ton œil est en bonne santé, ton corps sera tout entier en bonne santé. Mais si ton œil est malade, il ne s'agit pas ici d'une déficience physiologique de l'œil, mais il s'agit de l'état intérieur de la personne. Je l'ai dit mercredi passé, j'ai dit que les philosophes parlent de la lumière intérieure. Quand ils lisent ce passage, ils parlent de la lumière intérieure. Lumen interium. Cette lumière intérieure, selon les philosophes, lorsqu'elle est atteinte par le mal, l'homme devient incapable de combattre les mauvais désirs et de contrôler ses passions. Mais ce que Jésus veut dire, si ton œil est sain, ou il est en bonne santé, tout le corps sera aussi en bonne santé. Jésus veut dire que L'œil en bonne santé, c'est la foi simple. La foi sans mélange. La foi où le regard de la foi est fixé, non pas sur les choses, mais sur qui ? Sur le Seigneur. C'est ça l'œil en bonne santé. Une foi simple, c'est celle-là qui n'est pas sélective. Nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sélectionnent dans la Bible à quoi obéir et à quoi ne pas obéir. Ils sont sélectifs. Ils ont des parties de la Bible qu'ils disent que ça c'est difficile, ça c'est peut-être réservé au pasteur tel. Mais si, à tous les Esaïe. Non. Toute la Bible, c'est le conseil de Dieu. C'est la loi de Dieu. Tu dois, je dois, nous devons obéir à tout. Alors la foi simple t'amènera à dire c'est Dieu qui le dit. C'est ainsi que nous ne devrions même pas matraquer les gens pour amener la dîme. Parce que c'est bibliquement soutenu. Ou tu le fais, ou tu ne le fais pas. C'est-à-dire, tu obéis, ou tu fais quoi? Tu désobéis. C'est à toi de choisir. C'est ainsi que pour amener les actions de grâce, on n'a pas besoin de te les dire. Toutes les fois que se préparent les parents à la dédicace, je n'insiste pas trop sur ça parce que je me dis, si quelqu'un sait que c'est cet enfant, c'est Dieu qui lui a donné ça, Dieu a donné cet enfant, il ne peut qu'amener une action de grâce à la hauteur de la bénédiction qu'il a reçue. Malheureusement, je constate qu'il y en a qui ne savent pas. Et moi, je m'étais jusqu'à ce qu'ils comprendront. Si la Bible dit que personne ne se présente devant Dieu les mains vides, et toi tu viens le dimanche sans offrande, tu obéis à qui? À toi-même ou à la parole de Dieu? On n'a pas besoin de claironner, de matraquer les gens pour comprendre que c'est normal. Il faut regarder quelles sont les dépenses qu'on a faites pendant la semaine. Si la parole de Dieu nous dit « Fuyons l'impudicité », je le dis souvent aux filles, et puis un garçon vient devant toi, commence à dire des choses banales, les enfants disent « Biambaye ». Et toi tu commences à rire, mais tu ris, mais tu vas te retrouver quelque part. Si la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les mœurs et tu fréquentes les gens sans foi ni loi, mais ce qui va arriver, tu es responsable. C'est ça que j'appelle la foi simple, une foi qui obéit, tout simplement, parce que Dieu l'a dit. Tu injuries les gens et tu trouves ça normal. Tu refuses de pardonner et tu trouves ça normal. Il ne faut pas sélectionner la Bible. Et regarde la foi. Refuse aussi d'amasser les trésors pour la vie terrestre et faire de la vie céleste, de la relation avec Dieu, les plus grands trésors. Alléluia. La foi simple ne se met pas au service de l'argent, mais se sert de l'argent. L'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Un bon serviteur parce qu'il nous aide à servir le Seigneur, à faire éclore, à faire avancer le royaume de Dieu. Pas seulement ça, nous nous en servons pour partager avec les autres, pour diminuer tant soit peu leur détresse, leur souffrance. Bien-aimé, c'est ça l'œil en bonne santé. C'est un œil simple, un œil en bonne santé qui prend distance de s'assujettir au bien de cette terre. Il y a des gens qui sont devenus esclaves du téléphone, qui est un bien de la terre. Ils sont même occultes, il suffit que le téléphone sonne, il fait semblant d'aller à la toilette, mais en fait il va où? Il va répondre au téléphone. Même des gens qu'on pouvait respecter font ça. Pendant les cultes. Vous dormez, le téléphone à zéro mètre. Vous savez que c'est dangereux de garder le téléphone à moins de combien de mètres? Combien? Hein? Vous le savez donc. C'est devenu une idole, ce petit truc. Le physicien Einstein a dit, je l'ai dit aux jeunes un jour, le physicien Einstein a dit, lorsque la technologie remplacera notre chaleur humaine, nous aurons un monde des idiots. Nous devons éviter de nous asservir aux choses matérielles. Venons-en au verset 24 avant de conclure. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et qui? Dieu et maman. Notre société est de plus en plus matérialiste. Si tu as une position, les gens vont t'appeler tout le temps. Mais il suffit qu'on dise que tu n'as plus cette position-là. Ils vont encore t'appeler? Non, il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt. Quand nous parlons du matérialisme, nous ne sommes pas en train de parler des choses matérielles. Nous aurons besoin des habits, nous aurons besoin de véhicules, nous aurons besoin de téléphones, nous aurons besoin de l'argent, ainsi de suite. Mais ces choses, nous ne devons pas trop les aimer. Ce qu'on appelle l'obsession maladive et maladroite vis-à-vis de ces choses-là. Parce que cette obsession étouffe notre vie spirituelle, met en péril notre vie spirituelle. Gagner l'argent n'est pas du tout mauvais. Ben, nous voulons que beaucoup de gens au Goma Ouest gagnent de l'argent dans des voies honnêtes. Mais c'est l'obsession à les gagner qui pose problème. On ment, on détourne, on corrompt, on se fait corrompre, on entre dans les trafics, dans les combines, et on dit, moi je veux me retrouver. C'est une nouvelle façon de parler, je ne sais pas si c'est français. Moi, comment je vais me retrouver? C'est ça qui pose problème. Ce qui pose encore problème, c'est le fait de passer son temps à gagner, à économiser l'argent, à garder pour soi, pour ses enfants. Aucun souci de partager même avec sa mère, avec son père, avec les frères, les sœurs, avec les enfants de la grande ou la petite sœur, ou le grand frère ou du petit frère. C'est cette absence de partager qui pose problème. Et c'est ça que la parole de Dieu nous interdit. J'ai fini en revenant à 1 Timothée chapitre 6. Verset 6. Elle est d'un grand profit la piété pour qui se contente de ce qu'il a. J'ai parlé du partage, je parle maintenant du contentement. Apprendre à être satisfait de ce qu'on a. En effet, nous n'avons rien emporté dans le monde, de même nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons nourriture et vêtements, nous ferons quoi? Nous nous en contenterons. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans les pièges de la tentation, dans des multiples désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La racine de tous les maux, c'est quoi? C'est l'argent. C'est quoi? C'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transversés l'âme de tourments multiples. Bien-aimés, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Mais pas de notre pauvreté. Il ne faut pas se contenter de la pauvreté. Nous devons nous contenter si nous avons la nourriture et quoi? Et le vêtement. La nourriture et le vêtement, ce n'est pas avoir une chemise ou un pantalon. Ou manger les haricots chaque jour. C'est Paulus qui disait il y a quelques années qu'on peut fermer les yeux, mais c'est toujours quoi? Toujours les haricots. C'est le minimum vital. C'est ça, la nourriture et les vêtements, c'est le minimum vital. Ce que nous devons rechercher, c'est être en mesure d'avoir un habitat, une maison, d'avoir un moyen de transport, d'avoir des moyens pour envoyer les enfants à l'école, d'avoir des moyens quand on tombe malade. On n'est pas seulement en train de chercher les herbes dans la brousse pour se soigner. On va à l'hôpital. C'est ça le minimum vital. C'est ça pourquoi nous devons combattre jusqu'à ce que nous puissions en avoir. Tant de voix qui glorifient le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à vivre pour lui, à marcher selon ses pensées, à ne pas rechercher ou aimer l'argent, à ne pas rechercher le confort matériel et oublier notre relation avec le Seigneur. Avec la piété, nous aurons tout. Mais nous devons toujours nous souvenir que notre vie se situe entre deux réalités. La naissance et quoi? Et la mort. Nous sommes dans une transition. La naissance et la mort. La naissance, nous sommes venus nus, mais aussi les mains vides. Nous retournerons aussi les mains vides. Parce que nous sommes venus les mains vides et que nous retournerons les mains vides, ce qui doit nous caractériser, c'est le partage. La solidarité, servir le Seigneur avec nos biens, nous contenter de ce que le Seigneur nous a donné et vivre pour lui et pour répandre, étendre le royaume de Dieu. Un cœur qui tout le temps est concentré sur l'argent n'a pas de place pour Dieu. Ou nous servons Dieu, ou nous servons l'argent. Mais les deux ensemble, pas question. Ce n'est pas possible. Ce sont deux cultes inconciliables. Que le Seigneur nous aide à savoir que notre vie dépend, notre avenir, notre présent, notre éternité dépend des choix que nous faisons dans nos cœurs. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Que le Seigneur a fait dans ton cœur.